La France bouge continue jusqu'à 14h et j'avoue, Raphaël, j'ai caché des courgettes dans un gratin, j'ai menti à ma fille pour qu'elle le mange.
Non, c'est vrai, j'avoue. Ça m'est arrivé aussi.
Mais je crois que je vais pouvoir changer de méthode grâce à la solution d'Elisabeth Assayag.
Oui, cuisiner des légumes aux enfants, leur faire manger ces légumes. Eh bien, c'est grâce à chefbambino.fr qu'on va peut-être y arriver, Elisabeth, puisque on donne envie aux enfants de manger les fameux légumes.
En tout cas, c'est la promesse. Et puis, ça tombe bien parce que nous sommes mercredi et chaque mercredi, Chef Bambino livre une histoire en fonction des produits du moment. L'idée, c'est de stimuler la curiosité et le goût des enfants de façon ludique et donner l'envie aux parents de partager un moment de cuisine avec leurs enfants et surtout avec les produits de saison. Ils partent donc d'un produit de saison, hein, Chef Bambino, et de là découle une histoire. Il raconte des recettes sur les produits de saison sous la forme de dessins animés. Bonjour Stéphane Posidalo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de chefbambino.fr. L'aventure est née comment? Vous ne mangiez pas de légumes et vous l'avez regretté?
Ça, c'était moi avant, ouais. Enfant, forcément. Bah, j'étais un enfant avec...
Tout petit déjà.
Tout petit, les légumes, c'était forcément aussi compliqué. Non, mais j'ai rencontré dans ma vie antérieure, en tant que journaliste gastronomique, pas mal de chefs. Et de producteurs qui avaient la passion du produit et j'étais fasciné forcément par la manière de mettre en scène les produits dans l'assiette. Et un soir, face à mes jeunes enfants, je me suis retrouvé piégé un peu forcément à l'idée de me dire comment je vais un peu les stimuler, leur donner envie de manger tout ça. Et j'ai eu l'idée à un moment de me dire, et si on faisait une grande mise en scène, et si on faisait un visuel un peu créatif, et si on s'amusait tout simplement à cuisiner les fruits et légumes. Et donc avec mon associé Clément, qui est le créatif, on s'est retrouvés et on a décidé de créer une fable culinaire. Une fable culinaire,
alors
donc ça reprend en fait trois grandes idées. C'est de parler d'un produit de saison, de réaliser une recette simple et à la portée de tout le monde, donc en moins de 20 minutes, et surtout de raconter une histoire qui va impliquer les parents et les enfants. Parce que le but, c'est de s'amuser et de créer en famille, en fait.
Alors, on raconte quoi sur la courgette? Moi, je voudrais savoir, là, parce que ça devient urgent.
Par exemple, alors, je vais même vous donner l'exemple, là, en avant-première pour la rentrée. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire, par exemple, des haricots verts. Mais haricots verts, on va convier un personnage. Et donc, ce sera un sorcier qui s'appelle haricots verts, évidemment, et qui va raconter comment il va fabriquer des gnocchis de haricots verts et mettre en scène un grand palmier qu'on va pouvoir construire en famille. L'idée, c'est évidemment que les parents et les enfants regardent la vidéo et ensuite créent un atelier à la maison pour stimuler un peu la créativité, les papilles des enfants et des parents. Voilà, à l'arrivée, c'est nous, on a envie d'offrir une expérience. On a envie de prendre une autre approche de la cuisine traditionnelle et surtout de s'amuser avant de forcément convaincre par le goût, mais d'abord s'amuser.
Et vous avez déjà eu des retours après vos fables culinaires?
Beaucoup, et en fait, évidemment, on fait des salons, on fait des événements. On aime de voir que les parents sont de grands enfants qui ont envie de participer, de créer des idées d'ateliers à la maison. Et puis, on voit beaucoup d'enfants qui nous envoient des photos de leur création visuelle. Donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui une cinquantaine de recettes autour des produits de saison. Et c'est vrai que on s'amuse déjà beaucoup à faire tout ça. Et puis, surtout, on voit les parents qui adhèrent aussi.
Evelyne, notre coach.
Et vous livrez également vous livrez en même temps les légumes?
Alors non, aujourd'hui, notre but, c'est qu'on a, donc c'est une partie grand public, toute l'expérience est évidemment accessible à tout le monde. On a des recettes, différents contenus aujourd'hui, des quiz, des jeux. Demain, on va offrir évidemment des kits d'ateliers, on va créer des ateliers parents-enfants, toujours dans l'idée intergénérationnelle, en tout cas grands-parents, évidemment, pour ceux qui ont des petits-enfants. Et derrière tout ça, on va créer des expériences sur le terrain. En tout cas, c'est le but. Mais les fruits et les légumes, c'est vrai que c'est la seule chose qu'il faudra acheter pour faire à cuisiner après. Mais je tiens à dire vraiment qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses aux infos ce matin. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de se dire que bien manger et faire à cuisiner, c'est une question d'intention et pas forcément une question sociale. Et je crois que nous, notre but, c'est de fédérer un peu les acteurs du public et du privé et que les écoles aussi, à commencer par les écoles. Et je crois qu'on a un rôle avec plein d'autres associations à jouer.
Vous intervenez dans des écoles, justement?
On essaye de plus en plus, en tout cas. Notre but, c'est qu'on a envie d'intervenir partout, en tout cas. Et c'est vrai que ça prend du temps. ça prend du temps, mais je crois que l'enjeu est majeur.
C'est payant, votre vos fables sont gratuites.
Tout est gratuit. C'est-à-dire que
vous
nous,
vivez comment ?
Eh ben, évidemment, on a un savoir-faire digital créatif qu'on souhaite mettre à disposition de nos partenaires, et en tout cas de marques qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et puis à côté de ça, on aimerait vraiment développer des kits d'ateliers aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, pour s'amuser en cuisinant toujours.
Chefbambino.fr, j'attends la recette pour les courgettes, hein, parce que le haricot vert, il le mange.
Eh bien, je vous la partage
tout
de suite.
Merci beaucoup d'être venu nous parler, nous proposer cette solution pour que nos enfants aiment davantage les légumes.
Il est midi 57.
Europe 1.
Et on reste ensemble, bien sûr. On va se retrouver dans quelques minutes pour votre dossier du jour. Allez-y, décrochez maintenant votre téléphone 3921 ou Twitter, hashtag Europe 1. Utilisez-vous des services de bureau, de conciergerie ? Cela a-t-il changé votre vie professionnelle ? À vous de nous le dire, on vous attend.
Europe 1, midi 14h, la France bouge.
C'est Raphaël Duchemin.
Je l'ai dit en même temps que la dame.
Le monsieur, c'est un monsieur. Hein, attention.
Oui, le monsieur, pardon monsieur.
Bon, la France bouge reprend, effectivement. Toujours avec Elisabeth Assayag et avec notre coach qui nous rejoint dans l'aventure, Evelyne Platnik-Cohen. Vous êtes peut-être vous qui êtes de l'autre côté du poste en train de rentrer au travail cette semaine. Avez-vous dans votre société un service de conciergerie ? C'est vrai que c'est de plus en plus répandu et si vous pensez que ça ne concerne que les gros groupes, eh bien détrompez-vous, de plus en plus de sociétés s'y mettent. À vous de nous dire d'ailleurs si vous les utilisez. Et si oui, pourquoi faire, Céline ? On vous attend.
Bien sûr, vous pouvez nous écrire sur Twitter, @ou #Europe 1, au téléphone, appelez-nous 3921, c'est 50 centimes la minute. Et vous pouvez également nous écrire avec notre toute nouvelle adresse mail, notez-la, e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Alors, service de bureau, c'est vrai que c'est une expression un peu fourre-tout, mais vous allez voir que cela cache un tas de possibilités. Bonjour Antoine Repussard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de ZenRide. Et alors, vous avez lancé, vous, la toute première flotte de vélos électriques personnels de société. C'est vrai que c'est assez récent, ça existe depuis 2018. Comment vous est venue cette idée précise de service pour les salariés ?
Oui, alors l'idée nous est venue de notre quotidien avec mon associé. On était amené à se rendre sur notre lieu de travail qui était environ à 6-8 km de chez nous en transport en commun. Et on a vite remarqué, comme beaucoup de salariés en France, qu'on trouvait ce trajet qui était pénible. On n'était pas forcément sûr d'arriver à l'heure. Les transports en commun pouvaient être bondés. Et on a voulu transformer ce trajet. On a eu la chance de tester le vélo et le vélo électrique. Et on a remarqué que ce moment pénible se transformait en moment qui était agréable. Et donc, on s'est retourné vers nos employeurs pour lui demander est-ce qu'il existe un service, un programme qui nous permettrait, nous, jeunes salariés, de bénéficier d'un vélo pour nos trajets domicile-travail.
Et la réponse ?
Et la réponse était non. Et on a remarqué qu'on n'était pas les seuls dans notre cas, que ce soit les salariés qui viennent en transport en commun ou bien les salariés qui utilisent leur voiture au quotidien et qui se retrouvent dans les bouchons pour parcourir une distance de moins de 10 km. Le vélo électrique ou classique permet de répondre hyper bien à ce type de transport.
Donc c'est parce que vous êtes parisien que vous avez vu des milliers de personnes, et encore quand je dis milliers je suis gentille, galérer dans les transports en commun, que vous vous êtes dit qu'il y avait peut-être une autre voie possible.
Oui, pas seulement à Paris, hein. Moi j'ai des amis qui sont à Bordeaux, des amis qui sont à Lyon, Toulouse et autres. Je crois que le phénomène est assez national. Les gens ont un petit ras-le-bol des transports en commun ou même des bouchons en voiture et recherchent un moyen de transport qui est plus en ligne avec leurs attentes d'aujourd'hui, qui est l'autonomie, l'indépendance, la rapidité.
Pourquoi le vélo électrique ?
Alors, il n'y a pas que le vélo électrique. On va proposer des vélos classiques, des vélos pliants, les vélos pliants qui peuvent être pratiques pour de l'intermodalité. Typiquement, on le met dans le train et ensuite on finit son trajet en vélo. Mmh. Le vélo électrique est pratique, notamment quand on est amené à se déplacer régulièrement parce qu'on n'arrive pas tout transpirant. Mais par exemple, pour un collaborateur qui va faire moins de 4 km, un vélo classique fonctionne très bien aussi.
Que dit notre coach, Evelyne ?
Alors moi, je dis que l'idée est juste géniale parce que je suis tout à fait d'accord déjà avec ce que vous dites. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je suis sur Uber vélo et je pédale à fond la caisse. Okay. Et je traverse Paris d'ailleurs en électrique en moins de 12 minutes pratiquement. Donc, je suis complètement fan de l'idée. Ma vraie question, parce que pour le coup, j'ai une entreprise, je pourrais vous prendre, mais je ne vois pas où mes collaborateurs vont poser leur vélo. Donc moi, la première question, c'est est-ce que vous pourriez nous raconter le profil d'un ou deux de vos clients qui peuvent, se permettre de le faire et qui peuvent poser quelque part leur vélo ?
Alors par exemple, je pense à Acastali, qui est une entreprise qui est en banlieue parisienne. Eux, ils ont de la place forcément, ils ont un parking à vélo. Donc par exemple, ça permet à leurs collaborateurs comme Catherine, qui a 28 ans, qui avant mettait 40 minutes pour faire 5-6 km en transport en commun et qui aujourd'hui maintenant met 20 minutes. Donc elle a quand même réduit son temps de trajet, son temps de transport de 40 minutes par jour.
Mais il y a un parking à vélo. Donc ça signifie qu'il faut que les entreprises aient déjà intégré un espace pour les vélos. C'est de plus en plus le cas ou...
Alors, ce n'est pas obligatoire parce que dans notre offre, on propose des services. Donc on va faire des services d'entretien, des services d'assistance et des services d'assurance. Donc un collaborateur, une entreprise peut très bien ne pas avoir de parking à vélo. Le salarié, comme si c'était son propre vélo, peut le stocker dans la rue. Il l'attache avec un antivol qu'on lui fournit. Alors, et l'antivol et le vélo est assuré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Aujourd'hui, quand vous démarchez, vous allez voir les entreprises pour leur proposer une solution globale. Vous attendez un peu comme dans les crèches d'entreprise que le salarié aille convaincre l'entreprise de lui acheter un vélo. Comment votre processus de décision se passe comment?
Alors, il y a les deux cas, vous avez raison. Dans un premier cas, on va aller démarcher les entreprises. On leur apporte des outils qui permettent d'aller identifier ou en tout cas mettre en évidence un besoin de nouvelle mobilité pour leurs collaborateurs, comme on l'avait fait chez Castalie. Dans d'autres cas, chez d'autres clients, c'est les collaborateurs qui, eux, ressentent un besoin de changer, qui nous contactent. Et ensuite, on rentre directement en relation avec leurs ressources humaines pour essayer de mettre en place. Donc, s'il y a des auditeurs qui souhaiteraient mettre en place notre service dans leur entreprise, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter sur notre site internet.
C'est un peu comme si on avait un vélo à soi. On n'a pas besoin de l'assurer. Vous vous occupez de tout ça pour la société et pour les salariés, du coup ?
Exactement. C'est exactement comme si on avait un vélo à soi. Donc, on peut l'utiliser la semaine, on peut l'utiliser le week-end, on peut partir avec en vacances. C'est le sien. Il est juste fourni par l'entreprise.
C'est le vélo de fonction.
Alors, oui, c'est le vélo de fonction. Auparavant, on appelait ça vélo de fonction, mais le mot de fonction a un côté statutaire. Nous, on se veut
pas
inclusif.
Avec un vélo.
Alors, non, mais il y a le mot de fonction. Donc, nous, on se veut inclusif. Mm-hmm. On veut que ça soit ouvert à tous les salariés d'une entreprise, sans distinction de niveau hiérarchique ou de poste dans l'entreprise.
Elisabeth, c'est un secteur, la conciergerie au sens large, qui se développe de plus en plus. Oui. C'est ce que vous avez constaté ?
Oui, c'est arrivé en France dans les années 2000. C'est un marché qui est estimé à 50 millions d'euros, mais qui pourrait encore grossir de plus en plus si on prend en compte les nouvelles façons de travailler, vous avec les vélos, mais avec le télétravail, avec le coworking, tout ça, ça va obliger les professionnels des conciergeries à adapter leur offre constamment et à se renouveler, et pourquoi pas faire de la place à d'autres.
Aujourd'hui, Antoine, vous êtes 6 salariés, c'est ça, au sein de Zenride ?
Exactement, on est 6 salariés.
C'est quoi votre modèle de développement ?
Notre modèle de développement, donc on ouvre la France entière. Donc tous les salariés de France pourront, dans les prochains mois en tout cas, s'équiper avec notre service. Aujourd'hui, on a identifié à peu près 8 millions de collaborateurs qui pourraient être utilisateurs de nos services. Qui sont ces collaborateurs ? C'est des personnes qui vont habiter à moins de 8 km de leur lieu de travail et qui aujourd'hui prennent les transports en commun ou la voiture.
Vous allez réaliser, je crois, votre première levée de fonds. C'est prévu bientôt. Ça va servir justement à ce développement au niveau national ?
Exactement. On est en train de terminer notre première levée de fonds qui va nous permettre d'accélérer notre développement commercial et opérationnel pour permettre à tout, au maximum de salariés en France d'accéder à notre service.
Evelyne ?
Oui, ce qui est intéressant en fait dans le modèle de développement, c'est qu'on peut tout à fait se rendre compte que, bon, peut-être vous êtes situé vous à Paris, mais qu'en fait le business, c'est pas à Paris que vous allez faire le plus de business. Et j'ai ça chez pas mal de mes clients, entre autres dans l'alarme, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile d'aller en zone pavillonnaire, en région, etc. Et donc vous, je pense qu'à travers cette levée de fonds, vous allez pouvoir identifier des zones où vous allez pouvoir accélérer fondamentalement votre acquisition client et votre business.
Ouais, vous avez raison, Paris n'est pas du tout le marché le plus mûr pour le vélo. On pense à des villes comme Strasbourg, Lyon, Lille, qui sont bien en avance sur nous. Et justement, nous, on va travailler avec des partenaires locaux, des magasins en local, qui vont nous permettre d'avoir ce déploiement et ce rayonnement national dans les prochains mois, et justement de toucher tous les salariés. Et vous l'avez dit, en province, ils sont nombreux à vouloir se mettre au vélo.
Est-ce que l'offre est avantageuse ? Est-ce qu'on arrive à convaincre une société? Je crois que vous avez fait un test avec la Société Générale pendant un an. Est-ce que derrière, on se dit, oui, forcément, au lieu de leur donner des voitures, on va peut-être leur donner des vélos et ils seront plus en phase déjà avec la société et peut-être plus heureux au lieu de galérer dans les transports?
Alors, ouais, déjà, on ne va pas s'adresser qu'aux personnes qui ont le droit à une voiture aujourd'hui, mais à tous les collaborateurs. Il y a beaucoup de collaborateurs qui prennent leur voiture personnelle parce qu'ils n'ont pas accès à une voiture de fonction, ou bien des collaborateurs qui vont prendre les transports en commun. Donc, c'est vrai qu'à l'issue d'un test, quand on voit les résultats des collaborateurs qu'on sonde et qui nous disent « oui, je suis vraiment partant pour bénéficier de ce service », c'est motivant, on arrive à conclure. Imaginez-vous, Raphaël, si Europe 1 vous proposait d'avoir un vélo que vous choisissez parmi une gamme de
vélos. Moi, je prendrais un vélo électrique, hein, je vous le dis tout de suite.
Vous prenez un vélo électrique ? Ok. Mais voilà, est-ce que vous diriez oui ou non ?
Ah ben, je crois que je dirais oui. Je dirais oui.
Et pour les entreprises, ça ne leur coûte pas plus cher que
combien
le remboursement.
Combien justement, c'était ouais, ça ma question.
J'avoue, j'ai arrêté le métro. Donc,
alors, oui, combien pour l'entreprise ?
Pour l'entreprise, par exemple, sur un vélo électrique avec des services d'entretien, d'assistance, d'assurance, ça va revenir à 40 euros par mois. Donc, ce qui est un budget qui est semblable ou de la même ordre de grandeur que le remboursement des transports en commun, ce qui permet en fait de le proposer à tous les salariés et pas de le restreindre à...
C'est défiscalisé pour l'entreprise ?
Ouais. Alors dans les 40 euros par mois, il y a un avantage fiscal.
Déjà calculé.
Qui est déjà calculé.
On reste ensemble et on continue à parler de ces services à destination des salariés, les services de conciergerie.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h18.
Europe 1.
Et la conciergerie, c'est un vrai métier hein, qui englobe de plus en plus de services. C'est ce que fait par exemple Toudoutoudé. Et vous allez voir qu'au début, ça n'a pas été simple. À tout de suite. La France Bouge s'intéresse cet après-midi aux conciergeries d'entreprise qui se développent de plus en plus. Connaissez-vous ce type de service ? Votre entreprise utilise-t-elle ces conciergeries ? Dites-le nous via Twitter, @Europe1 ou appelez-nous au 3921, Raphaël. La conciergerie, c'est vrai que c'est un concept qui a mis du temps à s'imposer chez nous. Hein. Elisabeth l'expliquait tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on se demande finalement comment les grands groupes et même les plus petites entreprises pourraient s'en passer. Pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Bonjour Stéphanie Cardo.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la PDG de Toudoutoudé. On peut dire, je crois que pour vous, ça n'a pas vraiment été simple de monter cette conciergerie d'entreprise. On est en 2001.
Septembre 2001.
Ouais. On vous dit même à l'époque, hein, quand vous démarrez, que vous êtes la concierge la plus diplômée de Paris. Au lieu de vous servir, ça vous dessert.
Alors, j'étais dans un contexte très particulier parce que c'était un métier qui n'existait pas. Je voulais créer, donc d'abord, très rapidement, pour nous, la conciergerie d'entreprise, c'est la conception et l'opération d'un programme de services sur site et maintenant en digital, avec trois dimensions de services. Le gain de temps, on appelle ça une vie libérée des contraintes, donc pressing, cordonnerie, retouche, démarches administratives. Une vie en pleine forme, donc coiffure, esthétique, relaxation, coaching, prévention santé, etc. Et puis, une grosse partie sur l'engagement avec une plateforme communautaire, avec des animations, avec des actions solidaires, etc. Donc une approche très holistique qui permette aux entreprises d'aborder la fidélisation de leurs talents d'une manière assez systématique et large. Donc quand j'ai créé ça, il y avait plusieurs enjeux. D'abord, ça n'existait pas.
Oui.
J'étais une femme entrepreneur de 28 ans. À l'époque, c'était moins à la mode, il faut quand même le dire.
C'est vrai.
Ça buzzait un peu moins. J'expliquais aux entreprises qu'il fallait changer leur méthode de travail et leur stratégie RH parce que on allait se retrouver avec des personnes qui étaient quatre générations potentiellement différentes à travailler ensemble, un gros afflux de femmes sur le marché, etc. Donc forcément, il fallait transformer l'organisation, il fallait transformer la manière d'établir la relation de travail.
Et le message avait du mal à passer.
Et le message avait beaucoup de mal à passer. Et donc, je me souviens de grands patrons ou de grands DRH du CAC 40 qui me tapotaient le bras en me disant « Ma petite fille, tout ça, c'est des gadgets d'Américains.
» Ceux-là même qui sont revenus vous chercher après, mais ça, on va en parler.
Mais c'est tout à leur honneur.
Exactement. C'est Deloitte, je crois, qui vous a fait confiance en 2002, premier contrat, puis plus rien. Et alors derrière, c'est intéressant parce qu'il y a un investisseur immobilier qui va vraiment servir de levier, on peut dire, à votre activité. Il vous laisse 3 ans, c'est ça, pour faire un immeuble de bureau où tout le monde va vouloir venir. Donc là, vous êtes dans le projet total et dans le service.
Absolument. Donc moi, je pensais effectivement créer une entreprise qui était essentiellement tournée vers apporter du contenu à des politiques RH. Et puis effectivement, début 2003, coup de téléphone, un type avec un fort accent américain, heureusement que je parle un peu l'anglais, qui me dit voilà, je vous appelle de New York, on vient d'acheter un immeuble de 100 000 m² à Paris, dans un trou paumé de la capitale. On veut en faire l'immeuble où tout le monde veut travailler, on veut augmenter les loyers. Est-ce que vous êtes capable de mutualiser vos services et faire vivre cet immeuble ? Vous dites, écoutez, oui. Moi, j'y connais rien à l'immobilier, mais je suis une fille plutôt curieuse, donc je veux bien essayer. Et effectivement, on a imaginé ce qui aujourd'hui s'appelle le community management, une forme de co-activité dans l'immeuble. Et donc, on a mutualisé les services de conciergerie et les services d'animation pour tous les locataires. On a gagné le prix ensemble, le prix de l'innovation au salon de l'immobilier cette année-là, donc 2003. Ça nous a mis sur les radars. Et en fait, ça a été le début d'une grande aventure.
Tout s'est enchaîné.
Absolument, parce que ce qui a intéressé... Alors aujourd'hui, on a à peu près 60% du portefeuille qui sont des immeubles, que ce soit du bureau, du résidentiel, du centre commercial, et 40% qui est du corporate, plus ou moins grande entreprise. Et l'intérêt, c'est que l'immobilier s'intéresse à ce qu'on peut leur apporter comme expertise parce qu'on connaît bien les entreprises et les salariés. Et l'inverse est vrai, puisque les entreprises veulent changer l'environnement de travail au bénéfice de leurs salariés.
C'est ça, ils comprennent que conciergerie égale bien-être des salariés et donc que c'est mieux pour l'homme et aussi pour l'entreprise.
Absolument.
Une question peut-être de notre coach, Evelyne, qui prend des notes.
Alors je connais, c'est des métiers qu'on connaît bien parce qu'en quelques années, vous avez vu arriver plein de concurrents, vous avez eu du mal à démarrer, mais là après, vous avez vu arriver un certain nombre de personnes. C'est vrai que dans votre approche que je trouve assez originale, c'est la partie vraiment de la convivialité que vous amenez. Parce qu'en fait, moi j'ai une vraie question sur les conciergeries qui sont digitalisées, c'est quels sont les services qui sont les plus utilisés, qui sont vraiment utilisés?
Alors, La partie digitalisable est assez faible en réalité parce que d'abord ce que cherchent les gens c'est de l'incarnation. C'est un service de confiance. On est dans un monde qui est de plus en plus connecté, où ils ont de plus en plus de facilité à faire eux-mêmes un certain nombre de choses qui n'existaient pas il y a 18 ans. Moi, je vous rappelle que je suis un dinosaure. Il y avait à peine Amazon, il n'y avait pas de, web, il n'y avait rien, il n'y avait pas de smartphone. Donc, les gens, au fur et à mesure, ont appris à se débrouiller et à avoir accès à beaucoup de services dont, pour lesquels ils n'ont plus besoin de personnes. Mais du coup, dans l'entreprise, surtout que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de projets de digitalisation de l'entreprise, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent chercher? C'est le contact entre eux, avec les autres, pour les autres, et ils ont besoin de ce tiers de confiance. Et on voit bien sur les programmes que l'on met en place, nous on parle de figital, on se rend bien compte que les projets qui sont 100% digitaux ont du mal à émerger en termes de taux d'utilisation par rapport au physique. Et pour répondre très précisément à votre question, 95% des besoins des gens, si vous réfléchissez aux vôtres, y compris le côté convivialité, co-working, etc., nécessite une forme de logistique ou de présence physique. Et donc, on va avoir 50% des demandes, c'est autour du bien-être. Il n'y a pas photo, c'est vraiment d'abord
s'occuper
de soi.
C'est pour ça que vous avez développé coiffure, esthétique,
exactement,
yoga.
Exactement. Et puis, ensuite, on a à peu près 30% autour du gain de temps. Que ce soit réparez-moi mon smartphone, allez me faire mes courses de Noël, faites-moi les courses pour les dîners ce soir. Et puis le sol donc autour de l'engagement pour soi, pour les autres, ensemble.
Elisabeth, les conciergeries, ça concerne toutes les sortes d'entreprises ou...
Aujourd'hui, oui. Autrefois, c'était réservé aux grandes structures type L'Oréal, Danone, c'était plutôt les gros mastodontes qui faisaient appel...
Les fameux du CAC 40.
Aux conciergeries. Aujourd'hui, non, c'est plus le cas. Hein. Les moyennes, les petites structures s'y sont mises. Même les cabinets d'avocats, je ne sais pas si vous en avez dans votre portefeuille, mais il y en a aussi qui font appel, notamment dans les grandes villes, mais aussi en province, à ces services de proximité qui sont, notamment en province, souvent peu nombreux ou éloignés des lieux de travail. Donc là, ça concerne tout le monde finalement.
Ça signifie que tout le monde, toute entreprise, quelle que soit sa taille aujourd'hui, peut avoir un service de conciergerie?
Oui, c'était déjà le cas, mais effectivement, dans une moindre mesure, on en parlait moins. Nous, on a lancé en 2006 des programmes autour notamment de la conciergerie et bien-être et santé dans les magasins Carrefour à destination des hôtesses de caisse. Carrefour étant une des entreprises les plus innovantes en la matière et depuis maintenant 13 ans. On a aussi pu servir des PME ou des TPE en créant à partir de 2010-2011 ce qu'on a appelé des conciergeries de quartier. Donc on installait dans une zone assez dense en résidant mais qui n'avait pas le bénéfice d'être dans des très grandes entreprises. Mais ce qui est clair, et là où vous avez parfaitement raison, c'est que grâce au digital, on peut aujourd'hui toucher beaucoup plus de toutes petites sociétés où on va avoir une présence plus anecdotique et on va utiliser le digital non seulement pour rendre des services, mais aussi pour relayer un programme d'animation et de mobilisation des équipes important.
On reste ensemble et justement, on va en parler du digital.
Il est 13h27.
Europe 1.
car certains ont fait le choix du tout digital, justement. C'est le cas de Fidencio, de la conciergerie, mais à l'ère du numérique. À tout de suite.
La France bouge avec un dossier du jour consacré, Raphaël Duchemin, aux conciergeries d'entreprise.
Oui, et on vous attend, hein, 3921 et Twitter.
Oui, Twitter, @Europe 1, le 3921, c'est 50 centimes la minute. Je vous redonne l'adresse mail également, e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Alors, c'est vrai que quand on pense conciergerie, on s'imagine en bas de l'immeuble, au travail, un guichet, hein, comme dans les grands hôtels, où on peut venir chercher les paquets, passer, prendre le costume qu'on envoyait au pressing. Sauf qu'aujourd'hui, et on en a parlé, on a tous nos smartphones dans la poche. Bonjour Guillaume Michaud.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Fidencio et vous avez lancé un service de conciergerie digitale, uniquement digitale. L'idée, je crois, vous est venue en 2013 et vous avez décidé de lancer le service un tout petit peu plus tard, un an après.
Exactement. Donc Fidencio, c'est un service de e-conciergerie. On vient simplifier le quotidien des collaborateurs au travers d'une web app qui regroupe plus de 25 services du quotidien. Donc on peut faire commander son pressing, on peut commander, se faire livrer des colis ou directement faire nettoyer sa voiture directement via cette web app en 3 clics.
Vous avez quoi en tête quand vous commencez? Quels sont les premiers services que vous proposez? Il n'y en avait pas 25, hein. il y en avait un je crois.
On a commencé par le pressing parce que c'était le plus demandé. Nous on vient du monde de la finance, on a eu du mal à trouver notre équilibre vie privée, vie professionnelle, faire nettoyer ses chemises, etc. Et aucune solution s'adaptait à nos temps, à nos horaires élargis. Mmh. Donc du coup, on a cherché quelque chose pour répondre à un besoin 24/7. On a créé du coup des casiers connectés qui permettent le dépôt et le retrait des commandes. Donc à toute heure, on peut déposer ses affaires et les récupérer quand on le souhaite.
Donc vous allez dans les entreprises, vous déposez les casiers pour que le personnel puisse venir récupérer
Exactement.
Ses commandes.
Exactement.
Le système marche par petits messages sur le fameux téléphone portable qu'on a dans la poche, c'est
donc
ça?
Donc on va recevoir un SMS, directement quand son linge est prêt à être retiré ou quand sa commande est prête à être retirée.
Vous dites, nous, notre avantage, clairement, il est sur le prix parce que c'est du digital.
Alors, il n'y a pas que sur le prix, il y a aussi sur le gain d'espace et aussi sur la réactivité, la façon élargie de proposer les services. Le 24/7 est notamment un gros avantage quand on voit que justement, on peut commander son panier de fruits et légumes directement le dimanche soir. On rentre dans le quotidien du collaborateur et on vient valoriser la marque employeur de l'entreprise parce qu'on personnalise nos web apps en fonction de l'entreprise. Par exemple, Total, ce serait total.fidencio.com. Mm-hmm. Et le collaborateur, quand il est dans son canapé avec son iPad, il peut commander son panier de fruits et légumes. Et du coup, Total a valorisé sa marque employeur et donc fidélise ses talents.
Vous travaillez justement aujourd'hui avec des grands groupes. On parlait tout à l'heure de la diversification. Il y a de plus en plus de PME, de TPE qui font appel à ces services. Est-ce que vous êtes uniquement sur des grosses cylindrées ou des plus petites entreprises?
Alors, les deux types d'entreprises nous ont fait confiance. Au départ, beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui avaient l'habitude du coup de ces services-là. Et je remercie du coup Todo Today d'avoir tracé le chemin avant.
Oui.
Et nous, du coup, d'autres entreprises plus modestes et qui ont moins de mètres carrés aussi, nous ont fait confiance.
Evelyne, notre coach.
Oui, alors donc toujours, voilà, on a la suite de la conciergerie version totalement digitalisée. Donc c'est vrai que pour des entreprises plus petites et qui ont moins de budget, alors ce serait intéressant d'ailleurs de comparer vos deux tarifs par personne et par employé par mois, parce que ça permettrait de voir justement la différence. Encore une fois, quels sont les services qui sont véritablement utilisés? Parce que vous parlez du pressing et on a vraiment l'impression que c'est ça qui... Ça veut dire que vous allez vous adresser à des gens qui sont plutôt en costume cravate, donc ça peut être des hôtels de luxe, ça peut être des avocats.
Pressing, c'était le premier service, mais je crois qu'il y en a une vingtaine, 25, c'est ça?
Oui, mais qu'est-ce qui est vraiment utilisé en fait? C'est ça
question,
la vraie question, parce que j'ai 25 services, mais j'en ai peut-être deux aujourd'hui qui font 80% de mon...
La livraison de colis, je rejoins encore une fois Todo Today et Stéphanie sur le bien-être. C'est quelque chose qui marche très bien, notamment les ostéopathes, le yoga, etc.
À l'intérieur de l'entreprise?
À l'intérieur de l'entreprise.
Il faut avoir un espace pour ça.
Par exemple, pour un yoga, une salle de 5 mètres carrés suffit. Pas du tout un yoga, un ostéopathe, pardonnez-moi.
Une salle de... Oui, donc il faut que l'entreprise fasse la démarche, en tout cas, de laisser un lieu à disposition.
Oui.
Vous êtes à Paris pour l'instant?
Paris,
ou vous commencez à vous développer en région? Lyon, Marseille, ce sont des villes qui vous intéressent?
Lille aussi, tout à fait.
Comment vous voyez l'avenir? Vous êtes combien de salariés aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est 7. On compte réaliser une levée de fonds dans les prochains mois. Comment on voit l'avenir? Développement national, Ensuite, on va ouvrir d'autres marchés, notamment le résidentiel et à plus long terme, les hôpitaux.
Evelyne ?
Ah, moi, je trouve ça super de pouvoir enfin sortir, en effet, de la TPE-PME, là, qui est très, très, très sollicitée depuis ces dernières années sur plein de services, qu'elle n'a d'ailleurs pas toujours les moyens de se payer, je dois dire, parce qu'on est très ponctionnés, nous, par l'État. Donc, il ne nous reste pas beaucoup d'argent, en fin de compte, et pas beaucoup de marge de rentabilité, non, mais voilà, ça, vous le savez.
La chef d'entreprise.
Non, mais il faut le dire, et membre de Croissance Plus. Hein, donc, sûr. Ça veut dire qu'on se bat quand même pour un peu réduire les impôts et peut-être justement les redonner pour le bien-être de nos salariés, faire fonctionner des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai 3 services, je pourrais acheter les 3, mais je n'ai pas les moyens d'acheter les 3. Et puis quand je dis 3, en réalité, je suis démarchée toute la journée. Je peux avoir 50 services à très forte valeur ajoutée pour
donc,
mes
mais
collaborateurs.
Qui, bah tiens, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que la chef d'entreprise, elle va choisir un service? Parce que le tarif va être séduisant? Parce que ses salariés vont lui avoir fait remonter un réel besoin?
Oui, alors très souvent, ça vient des collaborateurs. C'est-à-dire que les collaborateurs disent, tiens, je viens de voir un truc, ça remonte. Et on sent ce qui les fait vibrer. Alors ça va dépendre de la taille de votre entreprise, de son emplacement, de l'âge aussi des types de collaborateurs. Donc il y a des choses qui remontent. Et puis après, vous en avez une super excitée, puis quand vous en parlez aux autres, ils disent non, mais ça ne m'intéresse pas. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas prendre un service pour un collaborateur. Donc, il faut aussi que ça plaise à tout le monde, qu'il y ait une vraie valeur ajoutée.
Elisabeth, on a deux exemples avec Stéphanie qui a ouvert la voie, évidemment, et avec Fidencio qui aujourd'hui est sur le digital, mais des entreprises de conciergerie, il y en a de plus en plus.
Ah oui,
on
en
a trouvé énormément.
J'en ai trouvé. Alors, j'ai trouvé JohnPaul.com qui a été racheté par Accor. Eux, ils ont été créés 6 ans après Toutoudé en 2007. Eux, ils dépassent les 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ciblent les grandes marques avec des abonnements sur mesure pour leurs clients. Vous avez myconciergerie.fr pour garder des enfants, un dîner d'affaires, remplir le frigo, réserver un taxi. Vous avez À Ma Place, conciergerie connectée. Ils font de la conciergerie d'entreprise, mais aussi de la conciergerie pour votre résidence, hein, si vous êtes un particulier. Ils se sont diversifiés. Vous avez la minuterie société Havraise.
Oui, qu'on avait reçue dans l'émission spéciale qu'on était allé faire au Havre.
Tout à fait, hein, voilà, et qui marche très bien. Ou encore Bonjour Léon, conciergerie d'entreprise Paris. Il y en a plein d'autres.
La plupart du temps, et je m'adresse à tous les trois, ce sont des services qui commencent à Paris et qui ensuite essaiment en région. Ou est-ce qu'il y a quelques exemples rares, peut-être, comme la minuterie au Havre, qui arrive à sortir un petit peu du lot, Stéphanie ?
La conciergerie, ce n'est pas une liste de services en réalité. C'est d'abord un état d'esprit et c'est un statement très fort que l'entreprise veut faire avec, comme je le disais tout à l'heure, une stratégie RH qui consiste à dire on va prendre en charge la marque employeur, on va apporter du contenu, on va mettre en place des personnes et des infrastructures qui vont permettre de rendre tout type de service. Et donc ça revient un peu à ce que vous disiez sur la question que vous posiez, Evelyne, sur le prix. En fait, un concierge d'entreprise qui rend un service ou 150 services, son coût est le même. Donc en fait, on parle pas tellement des services au démarrage d'une affaire comme ça. On parle avec le client, on parle d'abord d'une stratégie, d'une volonté, d'un fil rouge, qu'est-ce qu'on essaye de faire.
C'est presque un service en plus de l'entreprise.
C'est un service qui est d'abord un service rendu à l'entreprise ou au propriétaire immobilier avant d'être décliné
pour les salariés.
En service pour les quand on travaille avec Microsoft, avec Airbus, avec Carrefour, on va forcément pas designer le même programme, le même contenu, le même fil rouge sur notamment la programmation des animations ou des actions solidaires, etc. Parce que les profils à servir ou en tout cas les ambitions à servir vont être différentes. Donc c'est pas tellement une notion de Paris, province ou à l'international. Je vois la même chose depuis que je suis aux États-Unis. C'est pas plus New York que la Californie ou Chicago. C'est quelle est l'entreprise qui, à un moment donné, veut marquer le coup, a un enjeu d'attraction ou de fidélisation ou de féminisation ou de renforcement de la diversité ou une problématique post-fusion, par exemple, de rassemblement de ses équipes sur des sujets non conflictuels. Et donc, c'est de là que va démarrer le sujet et ça peut être en région plutôt qu'à Paris.
On reste ensemble et on va voir si les auditeurs ont des questions à vous poser d'ici quelques instants.
Il est 13h38.
Europe 1.
Quel service attendez-vous au travail? Comment les conciergeries peuvent-elles vous soulager dans vos tâches du quotidien? À vous de nous le dire, on vous attend 3921 et Twitter, hashtag Europe 1.
La France bouge continue, les conciergeries d'entreprise sont à l'honneur. Aujourd'hui, Raphaël Duchemin, et vous pouvez continuer à nous envoyer vos messages sur Twitter, @Europe1, nous appelez également au 3921, c'est 50 centimes la minute.
Nous sommes avec Antoine Repussard qui a créé, cofondé ZenRide. C'est une flotte de vélos électriques pour les salariés. Nous sommes avec Stéphanie Cardo, PDG de Toudou Toudé, qui a ouvert la voie aux conciergeries d'entreprise et au bien-être au travail. Je le précise parce que c'est important dans la dimension que vous essayez de développer, Stéphanie. C'était il y a déjà un paquet d'années, en 2001, le projet.
Arrêtez d'insister là-dessus.
Non, mais c'est important quand on a quand même des Français qui ouvrent la voie sur certains domaines, c'est quand même bien de le dire. Et Guylain Michaud, cofondateur de Fidentio, service de conciergerie d'entreprise digitale, qui est avec nous. Notre coach aujourd'hui, c'est Evelyne Platnik-Cohen. Evelyne, vous êtes présidente fondatrice de Booster Academy et, vous l'avez dit tout à l'heure, membre du comité de direction de Croissance Plus, toujours à mes côtés, bien sûr, Elisabeth Assayag. Elisabeth, tiens, quels sont les services qu'on peut trouver dans les conciergeries?
On a plusieurs. On va quand même parler services, hein. C'est important. Les services rendus, mais en fait, c'est simple, hein, ça touche à tous les actes de la vie quotidienne et de la logistique, parce que pour avoir un service, parfois, on n'a pas le temps et on est bien content de faire appel à une conciergerie. Alors, ça peut être apporter effectivement des vêtements au pressing, réceptionner une livraison, réserver un restaurant, un coiffeur, un massage, prendre rendez-vous, tout simplement, même chez le médecin. Solution de garde pour enfants, appel d'un coursier, ce sont toutes sortes de services. Peut-être y en a-t-il eu... y a-t-il des services inattendus, insolites auxquels on n'a pas pensé?
Guylain Michaud, est-ce qu'on vous a demandé un truc un peu particulier?
On a fait de la livraison de plein d'essence pour les collaborateurs directement. Ouais,
quelqu'un qui était à sec.
Exactement. Donc, du coup, le collaborateur peut directement, via sa web app, commander son plein d'essence. On lui fait livrer une citerne directement.
Moi, j'ai peut-être une idée pour vous, d'ailleurs.
Ah oui.
Moi, j'ai un souci qui est assez récurrent et que je vais travailler parfois un peu mon assistant dessus. C'est le problème de résiliation de contrat. C'est-à-dire des applications qui pourraient nous permettre de savoir quand nos mutuelles et autres, et quand on veut changer de contrat, c'est-à-dire peut-être nous faire des propositions de contrat à meilleur prix, nous aider à les résilier, etc. Voilà, ça manque. J'aimerais bien
ça existe. On peut s'en occuper.
En automatique.
Mais c'est une vraie question, parce que quand on dit conciergerie et service, qu'est-ce qu'on met dans le service? Est-ce que tout est possible à l'intérieur? Est-ce que, quoi qu'on vous demande, vous allez essayer de le réaliser, Stéphanie?
On va d'abord proposer un catalogue qui est assez large. Comme je le disais, on a trois piliers de services. Donc, la vie libérée des contraintes, c'est extrêmement vaste. Et on va d'ores et déjà avoir établi un catalogue. Ça fait 18 ans qu'on
fait
ça.
Quand vous dites vie libérée des contraintes, c'est effectivement.
Réparez-moi ma tablette. Venez me faire le plein d'essence au bureau. Occupez-vous de changer ma voiture. Faites mon constat de dégâts des eaux. Bon, il y a autant de services dont on peut avoir besoin. Donc, on va avoir un gros catalogue de services là-dessus. Et ensuite, les concierges ont des process et des formations qui font qu'ils peuvent vous rendre davantage de services en fonction de vos besoins, qu'ils soient identifiés ou qu'ils vous fassent des propositions de valeur. Dans la dimension bien-être, donc là aussi, le champ des possibles est très large, ainsi que dans la vie engagée. Nous, on a une démarche qui consiste à dire, depuis le démarrage, il faut qu'on soit des chiens truffiers, c'est-à-dire quelles vont être les tendances, surtout d'anticiper, et qu'est-ce qu'on va nous demander dans 2 ans. Donc, voire dans 5 ans, parce que quand l'immobilier nous demande de travailler avec les architectes et les bureaux d'études à programmer les immeubles de bureaux du futur, on est en train d'imaginer ce que ce sera de travailler ensemble dans 5 ans. C'est quoi les lieux de relaxation dans un immeuble dans 5 ans? C'est quoi les enjeux de mobilité? On est ravis de voir des acteurs comme ZenRide, etc., qui apportent des véritables solutions. Nous, on est aussi agrégateurs, entre guillemets, de start-up innovantes, et on va en mettre en avant chez beaucoup de nos clients. Quand on voit un truc génial, on ne va pas le réinventer et on va le pousser. Donc quand un Thank You a lancé le plein d'essence sur le travail, on a poussé H4D, la cabine de téléconsultation médicale, depuis 5 ans. On a mis chez nos premiers clients ensemble il y a 5 ans. Short Edition, la plateforme d'écriture, et ensuite les distributeurs d'histoires courtes qu'on a déployés en France et aux États-Unis avec eux. Donc on est là aussi pour dire il y a des nouvelles tendances, il y a des nouveaux usages, et dans chacun de nos 3 piliers, on peut trouver des offres nouvelles qui vont nous permettre d'enrichir le service. Et plus on fait de propositions, plus les gens ont d'imagination.
Question très pratique pour vous, Antoine. On parlait tout à l'heure hors micro du co-vélo. Hein, ouais. Parce que moi, je disais, j'ai peur, par exemple, de prendre un vélo. En tout cas, je ne me sens pas d'être au guidon. Est-ce que c'est un service auquel vous pouvez penser, par exemple,
ouais,
aujourd'hui?
Oui, c'est un service auquel on a déjà pensé. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont encore cette peur dans les centres urbains de faire du vélo. Nous, on va les accompagner justement pour enlever cette peur. Comment on les accompagne ? Déjà en leur fournissant des outils du quotidien. Donc, il y a des applications comme GeoVélo qui, par exemple, permettent de trouver un itinéraire sécurisé où on emprunte quasiment exclusivement des pistes cyclables.
Ouais, donc, GeoVélo, ça permet qu'on connaît également, hein, qui était venu dans les solutions, Elisabeth.
Oui, tout à fait.
Ça permet de réduire les risques. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui se créent justement pour accompagner les collaborateurs sur leur premier trajet en vélo et pour enlever cette peur de l'usage du vélo qui n'est pas majoritaire quand même en France.
Oui, je sais, je sais. Evelyne Platnik, notre coach.
Alors, moi, ce que je trouve très intéressant dans tout ce que vous dites, c'est qu'en fait, à la base, hein, ce que disait aussi tout à l'heure Elisabeth, c'est qu'on a un vrai problème, c'est qu'on a un problème de recrutement en France, pour nous, les entrepreneurs. Donc, il y a 3 millions d'entreprises en France, et je pense qu'il y a autant d'entreprises qui cherchent à recruter, alors tout, hein, mon jardinier m'en parle, moi, je cherche à recruter des commerciaux, des ingénieurs, etc. Et donc, vous arrivez, en fait, avec des solutions pour nous dire, un, recruter plus vite, parce que vous allez pouvoir proposer des vrais services à vos collaborateurs et puis éviter votre turnover parce que s'il part ailleurs, bah, il aura peut-être moins de services ailleurs. Donc c'est tout ça en fait, c'est toute cette offre-là, elle est vraiment importante aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui parce qu'on veut tous que nos salariés, on veut tous les chouchouter nos salariés. Alors on ne pourra pas tout acheter, c'est ce que je disais. Donc ça veut dire que votre enjeu aujourd'hui, hormis le service et l'intelligence de votre service, et là je prêche aussi pour moi, c'est votre capacité commerciale à vous différencier de tout ce qu'il y a sur le marché parce que l'entreprise ne pourra pas tout acheter. Donc, quelle est la valeur que vous apportez? Comment vous menez vos entretiens de vente? La façon dont vous ciblez vos entreprises? La façon dont vous allez vous battre pour prendre des parts de marché parce que vous ne pourrez pas tous être chez tous les clients.
Ouais, c'est très vrai.
Et vous avez raison parce que sur le recrutement, un des facteurs majeurs est l'accessibilité du site. Justement en proposant notre service et vous en parliez tout à l'heure, on ne peut pas mettre en place tous les services aux collaborateurs parce que l'entreprise a un certain budget. C'était notre point crucial, c'était justement d'offrir un mode de transport, un nouveau service qui n'allait pas impacter le budget de l'entreprise. Il peut remplacer le budget des transports en commun, il peut remplacer le budget d'une indemnité voiture, mais on ne va pas aller taper dans un budget supplémentaire. C'est pour ça aussi que c'est ouvert à tous les collaborateurs et il n'y a pas besoin d'avoir 200 salariés, mais même s'il y a 3, 4, 5, 10 salariés qui sont partants, on peut ouvrir notre service dès le début.
Merci à tous les trois d'être venus parler conciergerie avec nous aujourd'hui.
Beaucoup.
Et service pour vous, pour nous, les salariés. Merci d'avoir été en direct dans La France Bouge.
Vous êtes sur Europe 1, il est 13h47.
Europe 1.
Et on reste ensemble. Elle existe, elle, depuis 65 ans. Elle a connu des hauts et des bas. La bordelaise Cacolac est de retour. C'est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Et ça continue avec l'entreprise qui va bien, Raphaël.
Et oui, voilà qui va sûrement réveiller des souvenirs d'enfance chez certains d'entre vous, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise qui va bien, eh bien c'est Cacolac. Bonjour Christian Maviel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Cacolac. Je suis vraiment ravie de vous recevoir, parce que c'est vrai que c'est un peu notre enfance, hein, Cacolac. Je disais, elle a 65 ans et c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que l'aventure a commencé, c'est ça?
Oui, il y avait encore tout à refaire ou à faire. Et deux familles ont eu la très bonne idée de se rassocier et de se regrouper à Bordeaux.
Deux familles dont la vôtre?
Voilà, dont la mienne. Effectivement, je fais partie de la famille fondatrice, j'ai cette chance. Et aujourd'hui, on essaie de porter toujours les mêmes valeurs.
Deux familles qui s'associent et qui, au départ, absorbent les laiteries qui se trouvent autour de Bordeaux. C'est comme ça que ça commence?
Oui, les laiteries étaient très atomisées. Il y avait pas mal de monde sur le secteur. Et ils ont eu l'intelligence de se dire à deux, c'est bien, à plusieurs, c'est bien, mais à un, on sera plus fort. Et la preuve, on est toujours là.
Alors ça, c'est l'acte fondateur. Mais le Cacolac, lui, n'est pas encore né. C'est en 52, en Hollande, que la famille, les familles découvrent cette boisson chocolatée. Là-bas, c'est quelque chose qu'on boit régulièrement.
Oui, parce qu'en laiterie, ils faisaient tout ce qu'on pouvait faire avec le lait, du lait frais, du yaourt, du beurre, des fromages, mais pas de lait aromatisé encore. Et effectivement, lors d'un voyage à but industriel pour chercher du matériel, ils ont trouvé une recette, un produit qui ressemblait au Cacolac d'aujourd'hui. Et la naissance est dans ces années-là.
Alors, ils reviennent en France et ils créent cette boisson quasiment à l'identique, avec peut-être quelques secrets de fabrication. Ça se boit chaud et froid. Et puis très vite, les bouteilles commencent à sortir. Bouteilles en verre, hein, à l'époque, si mes souvenirs sont bons, on les trouvait dans les bars, hein, c'est ça?
On vient du bar, effectivement. Le Cacolac, la recette originelle, a été créée pour le bar. Aussi bon chaud que froid, c'était le slogan de l'époque. Aujourd'hui, on a évolué un petit peu, c'est plus une consommation froide, mais pour les adeptes, on peut toujours effectivement un petit coup de percolateur pour le faire mousser, le réchauffer, c'est génial.
Dans les années 80, elle débarque là, en canette dans la grande distribution, dans les rayons.
Oui, on avait fin des années 70, début 80, il y avait un choix, soit le tétra, soit la briquette, soit la canette alu, pour des raisons de process en fait, tout simplement, pour pouvoir reproduire le même process que pour la bouteille, on a choisi la canette, assis à l'époque et alu aujourd'hui.
Alors qu'il y a que l'accès aussi, évidemment, des slogans, et puis évidemment, la marionnette de JPP, Jean-Pierre Papin, au Guignol, hein.
Ah, ça a été une sacrée aventure.
C'est un marqueur.
Ouais. Effectivement, ça a marqué, on va dire, deux décennies, les quadras et les quincas d'aujourd'hui. Les guignols de l'époque faisaient les réputations, pouvaient les défaire. Donc on a un peu tremblé quand Cacolac est apparu dans la bouche de Jean-Pierre Papin, avec le terme corrompu, c'est tout bête, hein, c'est un mot. Mais dans sa bouche, dans le côté enfantin, finalement, ça a été génial.
Alors en 2011, la société est vendue parce que votre père, tout simplement, se retire. Et ils vont à deux investisseurs. Vous restez dans l'aventure, mais... manifestement, la manière dont ça se passe ne vous plaît pas vraiment. Du coup, vous décidez de revenir, de racheter, c'est ça ?
Oui, la vente s'est faite parce que c'était un choix familial, pas celui de mon père forcément, parce qu'on aurait bien voulu garder.
Mais il part à la retraite à ce moment-là.
Il part à la retraite, donc voilà, il faut faire des changements. Le reste de la famille choisit de valoriser les actifs, comme ça arrive parfois. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rester quand même à la tête de Cacolac, parce qu'il y avait quand même une grosse frustration hein, quand le bébé s'en va dans d'autres mains. Et puis, avec peut-être effectivement déjà à ce moment-là une idée derrière la tête, oui.
Notre coach, Evelyne, que dit-elle de cette aventure Cacolac ?
Alors évidemment, Cacolac, c'est ma boisson préférée. mais ce que je trouve complètement extraordinaire dans votre histoire, c'est que en fait, vous êtes l'entreprise, l'homme d'une seule boisson.
C'est notre force et notre faiblesse, je confirme.
Il y a la fraise aussi, non ?
Non, fraise, non. Aujourd'hui, dans le monde...
Non, il y a le café au lait maintenant,
voilà,
c'est ça.
80% du lait aromatisé dans le monde, c'est le chocolat. Donc nous, on baigne là-dedans depuis tout petit, depuis le début, et c'est difficile d'en sortir. Ça, c'est la faiblesse. Après, la force, c'est qu'on a un capital sympathie, on a une recette, on n'a pas attendu que ça devienne la mode, on a une recette la plus courte possible au niveau des ingrédients, quasiment naturelle, mais bon, comme on dit, les vaches ne font pas du lait chocolaté.
Ingrédients en circuit court, hein, on
est
d'accord.
Et des ingrédients en circuit court, effectivement, on achète du lait du Lot-et-Garonne, des Deux-Sèvres, le plus près possible de notre zone de transformation.
Et le sucre vient de Picardie, il n'y a que le cacao, évidemment, qui est
C'est du sucre français. Ah, le cacao est là, avec la meilleure volonté du monde. Mais on travaille dans les années prochaines, 2-3 années, là, pour avoir quelque chose au niveau du cacao à faire de sympa.
Cacolac, c'est 34 salariés aujourd'hui, c'est ça ? 11,5 millions de chiffre d'affaires ?
Oui, voilà, tout à fait. C'est une belle PME.
C'est une belle PME. Vous avez commencé... Vous nous avez pas amené les photos de vous avec la bouteille de Cacolac ?
Non, elles sont dans l'album familial, elles ne sortent pas.
Elles ne sortent pas. Vous avez pensé à revenir à la bouteille en verre, à la consigne ? C'est quelque chose...
Alors, nous, on reste avec la bouteille en verre. Aujourd'hui, c'est toujours 2/3 de nos ventes. Le consommateur fidèle de Cacolac, pour lui, son vrai Cacolac, c'est la bouteille en verre.
C'est celui qu'on trouve dans le bar.
Oui, tout à fait. Alors, dans le bar, aujourd'hui, malheureusement, de moins en moins.
Et à la maison aussi.
C'est plus difficile. On est beaucoup présent en boulangerie-pâtisserie. Mm-hmm. C'est tout un pan de consommation pour nous qui s'est transformé.
Evelyne ?
Oui, moi, c'est un vrai regret parce qu'aujourd'hui, quand je vais au café, ce qui m'arrive assez souvent, même dans la journée, j'aimerais bien avoir au moins un Cacolac par jour. Et vous n'êtes plus dans les... CHR, ce qu'on appelle café, ouais. Hôtel, restaurant. Et comment vous pouvez regagner des parts de marché ? On en veut, nous, du Cacolac ?
C'est un long débat, on pourrait y passer la journée, donc ça va être compliqué.
Il nous reste 30 secondes.
Non, c'est une thématique de tous les ans pour essayer d'effectivement de réduire cette peau de chagrin et d'essayer de reprendre des parts de marché. Mais ça fait partie des objectifs des années à venir, oui.
D'un mot, dites-moi, Christian, la relève, c'est la famille, bien sûr.
Sûrement, j'espère. On leur souhaite bonne chance. Il faudra qu'ils fassent leurs preuves, comme mon père m'a dit. Va faire tes premières erreurs ailleurs et tu reviendras et tu resteras si tu fais tes preuves. Moi, bon, j'estime, si je suis toujours là, c'est que je n'ai pas été si mauvais que ça. Et puis, j'ai eu un bon modèle surtout. C'est ça qui est génial.
C'est Cacolac, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Evelyne qui était notre coach, c'était sa première. On est ravis de vous accueillir. Elisabeth, nous, on se dit à demain midi.
Il est 13h58.